Tu veux présenter moi rapidement l'observatoire, ce que c'est, et puis l'outil qu'on a utilisé pour cette enquête. Donc bon, là, il y en a pas mal qui connaissent déjà un peu, mais c'est pas grave. Donc c'est un observatoire qu'on a créé en décembre 2020, donc à l'initiative de militants et de militantes de Sud Éducation de l'université. La réflexion, elle avait été lancée en mars 2019. Donc on est actuellement 8 enseignants, chercheurs et enseignantes chercheuses, pour partie syndiqués, mais pas tous à Sud Éducation. Toutes intéressées aux conditions de travail, par contre. Et on est... c'est vrai que j'ai oublié de... Et donc on est issus de disciplines variées, quand même majoritairement dans les SHS, et on a des traditions méthodologiques aussi assez variées. Donc voilà, on pourra revenir si besoin sur ces spécificités. Pour ce qui est des objectifs et des motivations lors de la création à l'origine de cet observatoire, alors déjà il y a une continuité, enfin il y a une logique, puisque à Sud Éducation, le cœur de notre activité, c'est quand même de s'investir toute l'année pour l'amélioration des conditions de travail. Donc il y a une logique de ce point de vue-là. Et après, vraiment au moment de la création de l'Observatoire, donc en 2020, on était dans un contexte assez compliqué, où il y avait un sentiment assez généralisé de dégradation des conditions de travail, pas mal de manifestations de souffrance, et face à ça, plutôt un déni de la direction de l'établissement. Et donc, par incidence, une situation qui s'est pas mal tendue, notamment au niveau des instances du personnel entre la direction de l'université et les représentants du personnel, jusqu'à devenir très conflictuelle et très pesant pour les collègues qui siégeaient. Donc ça, c'était aussi une motivation de leur montrer que, de manière un peu plus objective, qu'il y avait vraiment des choses qui n'allaient pas. On avait aussi une volonté, bien sûr, d'y voir un peu plus clair et de mieux comprendre la situation. Évidemment, dans l'optique aussi de pouvoir outiller l'action syndicale. Donc ça, on pourra revenir là-dessus, sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aimerait faire. Et puis, il y avait pas mal de motivations différentes, mais une des autres motivations aussi qui était importante, c'était de rompre l'isolement des collègues. Parce qu'en fait, souvent, quand on est dans des situations exposées à des risques psychosociaux, au bout d'un moment, comme on se bat un peu tout seul, on a un peu l'impression, on se pose des questions si c'est pas nous, finalement, qui fonctionnent pas normalement. Et donc, c'est important aussi de remettre du système là-dedans, du structurel, et de montrer qu'en fait, c'est pas les personnes qui sont problématiques, c'est bien le système, la structure, l'organisation du travail dans laquelle ils fonctionnent qui crée ces situations-là. Donc ça, c'était aussi un objectif important de cette démarche. Peut-être juste avant, on a fait une première enquête par questionnaire avec en gros le même questionnaire en 2021. Ensuite, on a fait une vingtaine, je crois, d'entretiens semi-directifs. Et donc là, c'est une nouvelle vague du questionnaire qui a été lancée en 2024. Et donc le questionnaire qu'on a utilisé, en fait, il est construit à partir d'un outil qui s'appelle RPS-DU de l'INRS, qui est lui-même basé, en fait, sur le rapport du Collège d'expertise sur les risques psychosociaux qui avait été coordonné par Michel Golac et Marceline Baudier à la demande du ministre du Travail. Ça devait être Xavier Bertrand à l'époque, suite au suicide France Télécom, etc. Et donc l'INRS, c'est l'Institut National de Recherche et de Sécurité. Et le DU, donc, c'est parce qu'en fait, dans les organisations, dans les administrations comme dans les entreprises privées, en fait, il y a une obligation d'évaluer les risques et de les renseigner dans un document. Et après, l'employeur doit dire comment il compte répondre à ces différents risques. Et donc, l'INRS a créé un outil, en fait, qui aide à recenser les RPS dans le DU. Et donc, on est censé en avoir une pour chaque unité de travail à l'université de Caen, par exemple. Et notamment à Caen, jusqu'à maintenant, c'était assez compliqué d'ajouter des aspects RPS dans le document unique. Donc, c'est peut-être train de changer, mais pour l'instant, c'était compliqué. Donc, j'ai mis la définition des risques psychosociaux de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, qui disent donc les risques psychosociaux découlent d'une conception, d'une organisation et d'une gestion médiocre du travail, ainsi que d'un mauvais contexte socio-professionnel, et ils peuvent avoir une incidence psychologique, physique et sociale négative. Donc, c'est une définition un peu... Enfin, violente, mais en tout cas qui est très institutionnelle, qui ne vient pas de militants. Dans le rapport Colaquet-Baudieu, c'est à peu près le même type de définition. En tout cas, ça pointe vraiment les facteurs organisationnels et relationnels comme source de risque. Donc ces facteurs, en fait, dans le rapport et donc dans l'outil aussi qu'on a utilisé, ils sont organisés en fait autour de 6 grands axes, que sont donc l'intensité du travail et le temps de travail, les exigences émotionnelles, une autonomie insuffisante, la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail. Donc là, c'est pas forcément que deux personnes de même niveau, mais c'est aussi les relations avec la hiérarchie, etc. Les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Donc c'est des grands thèmes, et puis après, il y a plein de ramifications. Et donc nous, par rapport à cet outil, en fait, on a ajouté 3 questions à la fin sur aussi les manifestations de la souffrance et les façons dont les agents tentent en fait de gérer cette souffrance, ou en tout cas de faire avec. Et donc l'idée, c'était de pas avoir que les facteurs d'exposition, mais aussi un peu rendre plus concrètes les conséquences sur les personnes. Et on a aussi ajouté les questions classiques démographiques, etc., pour un peu caractériser l'échantillon. Alors juste très rapidement sur des aspects techniques, mais donc bien sûr on a fait attention à respecter la réglementation générale sur la protection des données. On a diffusé l'enquête par questionnaire, donc c'était des questionnaires en ligne, qui étaient hébergés hors université sur une plateforme sécurisée open source. Les questionnaires a été ouvert d'avril à septembre 2024. En fait, il n'y a pas eu de réponse après le 16 juillet, mais on n'avait pas fermé. Et donc on a fait un premier envoi, puis après 2 relances. Et généralement, on constate à nouveau un pic des réponses à chaque relance. On a un taux de réponse qui est pas... on n'a pas bien sûr tous les 2850 agents de l'université, mais quand même qui est pas négligeable pour ce type d'enquête. Donc on a 419 réponses, ça fait à peu près 15% du personnel. Et... Alors, on a une représentation, contrairement à la première vague, qui était assez semblable à l'université, enfin, à la constitution de l'université. Là, on a une représentation qui est un petit peu différente. Donc, ça, c'est la caractérisation de l'objectif, de l'effectif. Donc, tout en haut, c'est les données sur l'université de Caen, la composition de l'université dans le rapport social unique donc de 2022. Et en dessous, c'est le questionnaire 2024, et puis ça reprend pareil après pour la distinction par genre. Donc ça permet, si on avait un échantillon qui était parfaitement représentatif de l'université, ben, il y aurait à peu près les mêmes proportions pour chaque couleur entre les deux, qui sont donc juste à poser. Donc on voit en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une surreprésentation des agents BIATS dans notre échantillon, surtout donc le bleu et le orange en haut là, des catégories A et B, un petit peu aussi des catégories C. Et on a aussi, dans les graphiques qui sont en dessous, donc on voit aussi qu'il y a une surreprésentation aussi des femmes, à la fois chez les agents BIATS, mais aussi de moindre manière chez les enseignants et enseignants-chercheurs. Alors, sur les résultats qu'on a prévu de vous présenter juste après, en fait, on a choisi pour des raisons de temps, de présenter des données assez brutes. On a fait d'autres analyses, mais qu'on ne présentera pas aujourd'hui. Et je veux juste rappeler, avant de passer la parole à Jessie, que en fait, c'est un outil donc, qui est fait pour recenser les expositions à des risques, et que donc, si tout va bien, si normalement, en fait, il devrait y avoir que des indicateurs au vert partout, puisque c'est des risques dont l'employeur est censé se préoccuper et desquels il est censé protéger les agents et les agents.
Alors moi, je vais vous présenter les principaux résultats du questionnaire. On va suivre les différents axes présentés dans le rapport de Golac. Donc sur l'intensité et la complexité du travail, au niveau de la première question, êtes-vous soumis à des contraintes de rythme élevé? On a 12% des répondants qui ne sont jamais soumis à des rythmes élevés dans leur activité et un tiers qui le sont parfois. 42% des répondants sont souvent soumis à des contraintes de rythme élevé et 12% le sont toujours. Sur les questions relatives aux objectifs, d'un côté, vos objectifs sont-ils clairement définis et les objectifs fixés sont-ils compatibles avec les moyens mis à disposition? Donc globalement, les objectifs des répondants sont majoritairement bien définis, 57% souvent, 17% toujours, mais peuvent être incompatibles avec les moyens et responsabilités alloués pour les atteindre, 41% parfois et 6% jamais. Donc d'un côté, on a effectivement des objectifs qui sont bien définis, mais les moyens mis à disposition sont parfois absents. Sur la question numéro 6, êtes-vous fréquemment interrompu au cours de votre travail par des tâches non prévues et exercez-vous des activités qui nécessitent une attention soutenue ou une vigilance permanente? Donc les répondants sont fréquemment interrompus au cours de leur travail, 40% souvent, 17% toujours. Pourtant, leur activité nécessite une attention soutenue ou une vigilance permanente pour 50% souvent et 23% toujours. Donc ils sont régulièrement interrompus alors que ça demande quand même de la concentration. Sur l'axe horaire et travail difficile, il y avait une question en rapport avec si les personnes travaillaient plus de 45 heures par semaine et une autre pour savoir s'ils connaissaient suffisamment leurs horaires de travail et la planification. Donc une personne sur deux travaille parfois, souvent, voire toujours plus de 45 heures par semaine. Et pourtant 88% d'entre eux connaissent la plupart du temps leur planning à l'avance, 49% toujours, 39% souvent. Donc on peut se demander s'il y a un écart entre la planification en amont du travail et la charge effective réelle sur le terrain. On avait une question relative à la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Donc pour seulement un tiers des personnes interrogées, il est toujours possible de concilier vie professionnelle et vie personnelle. 44% d'entre elles disent que c'est souvent possible de le faire. Cependant, près d'un quart des répondants, cette compatibilité s'avère difficile à avoir. 19% parfois et 3% n'y arrivent pas. Sur l'axe exigence émotionnelle, question 13, êtes-vous confronté à des situations de tension? Et mise en regard de la question 15, dans votre travail, devez-vous toujours faire bonne figure en toutes circonstances? Donc des situations de tension sont parfois rencontrées pour la moitié des répondants, 51%, ce qui est beaucoup. Près d'un tiers y sont confrontés souvent et 2% y sont confrontés tout le temps. Pour autant, ces derniers doivent faire bonne figure la plupart du temps pour les trois quarts des personnes qui ont été interrogées. Au niveau de l'autonomie au travail, on avait trois questions. Avez-vous des marges de manœuvre dans la manière de réaliser votre travail? Pouvez-vous vous interrompre momentanément quand vous en avez besoin? Ou pouvez-vous utiliser vos compétences professionnelles et en développer de nouvelles? Donc dans l'ensemble, sur ces trois questions, les répondants évoquent une bonne autonomie dans le travail. 84% disent avoir souvent, voire toujours des marges de manœuvre pour réaliser leur travail. 66% peuvent souvent, voire toujours, interrompre momentanément leur travail. Et 75% peuvent souvent, voire toujours, utiliser et développer de nouvelles compétences dans leur activité. Concernant les rapports sociaux au travail dégradé, on avait deux questions, une sur les relations entre collègues. Est-ce que les relations entre collègues sont bonnes et règne-t-il un climat de courtoisie et de respect mutuel entre les personnels? Donc là, les relations entre collègues sont jugées toujours et souvent bonnes pour un quart des réponses et 40% respectivement. Mais pour 22% d'entre eux, ces relations ne sont que parfois, voire jamais bonnes pour 4% des répondants. On a une proportion relativement similaire avec la thématique de la courtoisie. La courtoisie et le respect mutuel pour trois quarts des répondants. Le climat est évoqué comme souvent beau. On avait aussi deux questions liées au soutien à la reconnaissance de l'institution ou de l'encadrement. Donc ce schéma, il est à ce qui est bleu, c'est en positif, et ce qui est en orange, c'est plutôt négatif. Et sur l'axe des abscisses, vous avez donc la hiérarchie qui est plutôt directe ou plutôt très large. Donc le supérieur hiérarchique direct est par là-bas. Après, il y a la direction de service, services centraux, direction de l'université, la présidence et le ministère. Donc on voit qu'il y a un sentiment de soutien et de reconnaissance dans l'environnement de travail proche, donc avec son supérieur hiérarchique direct. Au niveau du soutien, on a plus de 50% qui disent plutôt oui ou toujours avoir du soutien. Et au fur et à mesure où on est un petit peu plus large, en passant la direction et puis après le ministère, là on a quand même une large majorité de jamais. Et pour la reconnaissance, c'est un petit peu pareil. Au départ, supérieur hiérarchique direction, on a quand même toujours ou souvent une marque de reconnaissance. Et une fois qu'on passe à la direction et au ministère, ces marques-là disparaissent totalement. Concernant la sécurité de l'emploi et du travail, sur la question 25, êtes-vous confronté à des incertitudes quant au maintien de votre activité dans les prochains mois ? Donc il y a une incertitude importante qui est présente pour un tiers des répondants, et elle est bien évidemment exacerbée chez les contractuels. Donc là, on a le graphique en rond qui permet de voir l'ensemble des réponses, et puis après on a regardé au niveau des statuts. Donc les premières lignes, sur le deuxième schéma, les premières lignes, c'est les titulaires, et les deux lignes du bas, c'est les contractuels, donc contractuels BIATS et ingénieurs recherche, et contractuels enseignants, enseignants-chercheurs. Et on peut voir que pour les titulaires, on a une majorité de jamais, alors que pour les contractuels, on a une majorité de toujours et souvent, ce qui présuppose donc un facteur d'exposition supplémentaire aux risques psychosociaux pour cette population. Et enfin, concernant les manifestations de la souffrance au travail, qui constituent nos dernières questions, avez-vous déjà craqué sur votre lieu de travail ? Donc la moitié des répondants, 51%, disent avoir déjà craqué quelquefois sur le lieu de travail, et cela arrive régulièrement à souvent pour 7% d'entre eux. Et là, sur le tableau, on peut voir lister les différentes manifestations de ce fameux craquage. Donc on a en majorité des pleurs et des cris, comme on peut voir sur les premières lignes en gras du tableau. On a également des heurts, moins souvent, mais qui sont quand même présents, comme les insultes ou les agressions physiques, et parfois des conséquences sur la santé avec du harcèlement, malaise, burn-out. Et puis vous avez aussi quelques verbatim qui ne sont pas forcément dans des catégories. Échange musclé par courriel, je craque assez régulièrement, mais presque toujours en dehors du lieu de travail. Sur la question 29, le travail a-t-il déjà eu des conséquences négatives sur votre vie personnelle ? Donc pour 3/4 des répondants, le travail a des conséquences négatives sur leur vie personnelle. Ça arrive de nombreuses fois pour presque un tiers d'entre eux. Et ces conséquences vont se manifester. Donc là, on a des effectifs qui sont quand même assez hauts. Sur le stress, le sommeil perturbé, des pleurs et de la tristesse. Donc là, avec des effectifs, 304 personnes ressentent du stress, 271 ont un sommeil perturbé, 160 évoquent des pleurs et de la tristesse. Et on a également des problèmes de santé, des difficultés relationnelles, des prises de médicaments avec des effectifs qui sont quand même assez hauts. D'autres verbatim qui ne sont pas forcément présentes dans cette catégorie-là, perte de confiance et d'estime de soi ou de motivation, prise d'alcool. Et enfin, sur la question 31, avez-vous atteint un niveau de saturation au travail tel que, là on demandait donc aux personnes de caractériser cette saturation-là. Donc 40% des répondants disent avoir limité leur engagement professionnel, 30% ont cherché à changer de poste et 7% ont vraiment concrétisé ce changement. Globalement, cette saturation se manifeste également par un désengagement dans son travail. Engagements du collègue dans le travail qu'il fait, une réorganisation de ses activités avec une priorisation différente ou un abandon de certaines tâches, encore le fait de limiter les échanges avec certains collègues, donc ça a comme conséquence aussi sur la santé des personnes avec un isolement, un repli sur soi, et comme on avait évoqué aussi dans les questions précédentes, on a consultation de médecin ou psychologue ou également la prise de médicaments. Et parmi les stratégies qui ont été énumérées par les individus, les personnes, les répondants, pour faire face à ces situations-là, on a retrouvé de la prise de recul et du temps pour soi, faire du sport, poser des congés, ce genre de choses, de la méditation et de la sophrologie pour certains d'entre eux, le fait de passer en télétravail quand c'est possible, ou encore la création de nouveaux liens avec de nouveaux collègues, des collègues différents.